Voilà, dans le bonjour à toutes et à tous, dans le temps qui m'est imparti, je compte beaucoup sur les organisateurs pour m'empêcher de déborder le temps, parce que j'ai une certaine tendance à me passionner pour les sujets qu'on demande de traiter. Je voudrais quand même féliciter vraiment ceux qui ont organisé un colloque de cette nature sur un sujet comme celui-ci. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été organisés sur une question qui suscite traditionnellement une assez forte indifférence, parfois des sourires. En tout cas, on a tendance à sous-estimer un sujet comme celui-là. Ce qui m'est paru intéressant quand j'ai été sollicité par la délégation du Loiret du mouvement d'Uni, j'ai trouvé très intéressant qu'on relie ces trois concepts qui sont tous compliqués individuellement, mais qui prennent beaucoup de sens lorsqu'on les rajoute. Moi, je vais vous parler essentiellement de l'hypersexualisation, mais vous allez voir qui va aborder nécessairement les problèmes liés au cybermonde, comme ceux liés à la pornographie. D'ailleurs, le rapport Joanneau de 2012 avait inventé un néologisme qui est la pornographisation de la société et qui, en tant que tel, va vous montrer pourquoi il est nécessaire d'être à la fois vigilant et réactif face à ces mécanismes. Alors, si on m'a demandé de vous parler de ces questions, c'est essentiellement parce que j'ai une activité d'abord de président de fondation. La fondation CEL est une fondation qui a vocation à être un centre de ressources. Je sais que je vais maîtriser à un moment ou un autre la technologie de... mais c'est pas sûr, hein, quand même. Il faut que je trouve le bon bouton. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je pense qu'en tapant sur celui-là, on va y arriver. Voilà. Et après, on ira ici. Voilà. Impeccable. Et donc après... Donc, juste un mot sur la fondation CEL que je préside, qui est une fondation d'utilité publique, qui est en fait un centre de ressources sur tous les mécanismes liés à l'exploitation sexuelle. Et donc, pas totalement surprenant que nous réfléchissions aussi à un phénomène comme l'hypersexualisation. Nous établissons tous les 18 mois un rapport qui, à la fois, brosse l'état des lieux dans différents pays et sur les tendances de l'exploitation sexuelle. J'allais dire, malheureusement, tous les 18 mois, nous avons des choses à dire, puisque j'avais intitulé l'avant-dernier rapport « Une menace qui s'étend ». Le dernier rapport que je viens de remettre à la délégation du Loiret montre l'impact du marché de l'exploitation sexuelle, dont l'hypersexualisation, d'ailleurs, est une illustration qui est généralement sous-estimée. Donc la vocation de cette fondation, c'est de lutter contre toutes les formes d'exploitation sexuelle. Il se trouve que, comme par ailleurs, je suis toujours procureur en exercice et qu'au bout de, pour l'instant, à peu près 40 ans de travail dans ce domaine judiciaire, j'ai croisé fréquemment et encore aujourd'hui les mécanismes liés au proxénétisme, à la traite des êtres humains. Je peux constater que c'est une école d'humilité, puisque malgré tous les dispositifs, toutes les actions, tous les dévouements, et je sais l'énergie et l'activité notamment du mouvement d'Uni et particulièrement dans cette région, eh bien le phénomène que nous efforçons de décrire les uns et les autres et de combattre a plutôt tendance à se développer qu'à se restreindre. L'objectif de ma fondation, comme d'ailleurs je crois celle du mouvement d'Uni, qui est un partenaire ancien de la fondation CEL, n'est pas d'éradiquer des phénomènes aussi compliqués, mais de faire en sorte que nous nous rendions inhospitaliers aux formes intolérables qu'elle prend en règle générale. Alors, il faut bien partir de l'idée que l'hypersexualisation, qui est un mot pas facile à prononcer et à écrire, est en réalité, malgré tout, encore un phénomène récent. Il est lié, comme souvent, au développement de la société américaine, où le principe de liberté, le 10e amendement de la Constitution américaine, permet des choses inimaginables dans l'état de droit traditionnel de notre pays. Et c'est en fait, comme souvent en matière de violence et de délinquance, à partir d'études menées au Québec, et depuis à peine une dizaine d'années, qu'on commence à avoir une idée relativement précise de ce qu'est l'hypersexualisation, qui est une chose, mais surtout des menaces qu'elle présente pour notre société. J'indique qu'elle a des formes diffuses, et on verra qu'en effet, les définitions sont toujours satisfaisantes pour celui qui les fait, mais que globalement, c'est un phénomène très évolutif, et donc je pars du principe que mieux on connaît un phénomène, plus on a de chances de pouvoir le combattre. Alors, c'est en effet un problème de définition. Alors, je vous en ai proposé quelques-unes, pas beaucoup, rassurez-vous, mais tout de même, qui me paraissent assez limpides. D'abord, l'hypersexualisation n'est pas un objet juridique en l'état aujourd'hui du droit français. Vous ne trouverez pas le mot dans le code pénal. vous ne le trouverez pas, je l'ai encore vérifié, dans les arrêts, pourtant nombreux, de la Cour de cassation en matière de violence sexuelle. Les Québécois, les chercheurs québécois, et c'est notable de penser qu'il s'agit de chercheurs, parce que avant d'agir, il faut essayer de comprendre, le définissent en général comme, disons, tout ce qui est considérer la personne humaine comme un objet sexuel. C'est le premier point. D'ailleurs, en tant que membre du Conseil national d'éthique, où j'ai eu le privilège d'être nommé par le ministère du droit des femmes, on voit bien que la chosification du corps est un phénomène et un fléau qui va permettre d'arriver sur les questions que vous traitez aujourd'hui, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle, qu'elle soit sous la forme de la prostitution ou du harcèlement sexuel que le monde de l'Internet, que j'évoquerai rapidement, permet de développer. Globalement, on a défini, mais ce n'est pas une définition scientifique, c'est celle des chercheurs qui ont travaillé sur la question, l'hypersexualisation comme un usage excessif de stratégies axées sur les corps dans le but de séduire. Vous voyez, c'est très très général. Globalement, c'est un phénomène qui consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. Autrement dit, c'est plaquer toutes les données de la sexualité sur des sujets qui en réalité sont des sujets essentiellement commerçants, mais qui vont permettre de donner une connotation particulière à des choses qui par ailleurs sont parfaitement non sexuelles. Les débats des chercheurs se sont beaucoup focalisés entre sexualité précoce, est-ce que c'est la représentation d'une évolution de cette sexualité ? En gros, c'est impliquer des très jeunes, et on verra qu'il s'agit essentiellement de jeunes filles, on parlera éventuellement des jeunes garçons, mais c'est, et on le verra aussi, parmi les enjeux de l'hypersexualisation, c'est en fait un moteur à discriminer entre femmes et hommes, et notamment, c'est autour de la sexualité précoce, c'est-à-dire de donner une connotation sexuelle à des femmes qui ne sont pas encore des femmes. Et on verra que ce concept a des connotations très précises. Je vous donnerai des illustrations dans la criminalité actuelle, où on voit que quand on peut parler de marché de femmes de 8 ans, eh bien on est exactement dans une des formes les plus extrêmes, mais hélas bien concrètes, de l'hypersexualisation. Et puis le concept de sexualité acceptable, je vous le livre pour ce qu'il est, parce qu'en réalité c'est un modèle d'équilibre à un moment donné dans la société de ce que la société accepte comme étant tolérable en matière de sexualité. On sait que tout ça est très subjectif, est très évolutif, très variable d'une société à une autre. Nous sommes en France aujourd'hui, en 2017, et c'est vrai que l'hypersexualisation, c'est en gros tout ce qui va au-delà de ce que globalement la société accepte comme sexualité. Et puis, parce que c'est toujours à partir d'éléments particuliers qu'on remonte au général, le déclencheur de la réflexion sur l'hypersexualisation chez les jeunes, ça a été une mode, celui des concours des Minimis, qui est une mode extrêmement américaine, qui a connu quelques exemples français depuis une dizaine d'années, avec, il faut bien le dire, de temps en temps on peut se réjouir sur des sujets difficiles, un succès modeste, et que cette mode semble ne pas avoir connu de grand développement. Néanmoins, la mode des concours de Minimis, entendez, des concours dits de beauté pour des jeunes filles, entre guillemets, de 8 à 10 ans. Hein, c'est quand même de ça dont on parle. Et donc là, quand même, ce phénomène qui avait été transposé des modes américaines a suscité plus de réticence que d'enthousiasme. Et malgré des commentaires très chagrins d'une certaine presse de la jeunesse qui a trouvé qu'on était quand même très moraliste de ne pas vouloir voir se développer les concours de Minimis, on peut dire aujourd'hui que les concours de Minimis ne sont pas un phénomène très développé en France, mais ça l'a été, ça peut le redevenir. Ce n'est pas seulement le procureur qui vous parle ici, mais aussi le père de famille, même le grand-père aujourd'hui, mais globalement, c'est souvent à travers des drames que le législateur et la société réagissent. Et il se trouve qu'en matière d'hypersexualisation, et de très loin, c'est l'affaire John Bennett Ramsey, qui, il y a maintenant 20 ans, qui a été un révélateur aux États-Unis et au Québec. C'est une petite fille de 6 ans qu'on a retrouvée morte dans la cave de ses parents. Affaire qui n'est pas encore résolue aujourd'hui, puisque je ne ferai pas le détail de cette affaire, mais cette malheureuse petite fille de 6 ans qui était une icône des concours de Minimis aux États-Unis. Et beaucoup de commentateurs se sont dit que l'assassinat de cette petite fille était en lien avec sa surexposition sexuelle dans les médias. C'est un procès qui n'a pas eu lieu. On ne sait toujours pas, on ne saura sans doute jamais qui a tué John Bennett Ramsey. Néanmoins, c'est à travers le drame vécu par cette petite fille qu'un certain nombre de réactions, dont je vais vous parler maintenant, permettent de dessiner les contours de ce qu'est aujourd'hui l'hypersexualisation chez les jeunes. La France, en effet, n'a pas eu d'affaire John Bennett Ramsay, Dieu merci, mais elle a pris conscience que ce phénomène pouvait se développer chez nous, et c'est, ça a été évoqué tout à l'heure à juste titre, le rapport qu'a fait Chantal Jouanneau en mars 2012, dont je vous recommande la lecture, il reste de grande actualité. Chantal Jouanneau, qui au passage, je vous l'indique, est membre du jury de la Fondation SEL, puisque nous travaillons avec le mouvement d'Uni, avec un certain nombre de personnalités, dont Chantal Jouanneau, pour faire travailler des jeunes dans des grandes ou des petites écoles, concours de slam, concours de réquisitoire, concours d'articles, concours d'art graphique. Donc elle est très impliquée dans les phénomènes de l'exploitation sexuelle chez les jeunes, qui a fait ce rapport qui est d'aujourd'hui la pierre de touche de ce qu'on sait faire. Alors je n'insiste pas, parce qu'on pourra y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure, mais ce rapport, comme tous les rapports, a fait des recommandations. Il en a fait 12, vous les avez là, les 6 premières et les 6 suivantes après, bien sûr, et qui, en fait, dessinent des contours de ce qu'est, en fait, l'hypersexualisation et des dangers qu'elle présente à travers les recommandations qui ont été faites pour lutter contre un phénomène. Phénomène jugé comme dangereux, sinon on ne lutterait pas contre. Je vous rassure, naturellement, les 12 propositions, à ce jour, n'ont pas connu une traduction matérielle très précise, mais ça arrive dans les rapports. En tout cas, ce rapport a permis de faire prendre conscience qu'il y avait un problème. C'est déjà considérable, vu la masse des problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés. Et notamment, ce rapport propose, qui n'a pas encore été fait, de prendre des mesures, comme d'ailleurs en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, qui est aujourd'hui, il faut le savoir, le pays avec les États-Unis béni des trafics sexuels d'enfants. Il n'y a pas une semaine en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où il n'y ait pas des affaires de children ring, autrement dit de vente d'enfants à des fins sexuelles, qui ne soient pas révélées. C'est dire l'ampleur du marché que ça présente. Et la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays de loi facile, a fait une loi qui interdise la publicité hypersexualisée d'enfants. Donc les photos que je n'ai pas mises dans ma présentation de petites filles de 8 ans maquillées avec des soutiens-gorge balconnants et des souliers à talons aiguilles sont interdits en Grande-Bretagne. Comme ça ne l'est nulle part ailleurs, et l'Internet étant un monde universel, ça n'empêche pas de pouvoir y accéder si on le souhaite. Mais globalement, elle a prévu aussi qu'on fasse une charte de l'enfant qui rappelle justement qu'il y a des principes. Et vous verrez d'ailleurs que parmi les enjeux que je vais vous décrire, il y a le fait d'être lucide sur le fait qu'un enfant est un enfant d'abord, avant d'être un objet de commerce. L'objectif de comprendre, par exemple, proposition 6, la sexualité des adolescents, est un vaste programme que les anciens adolescents que nous sommes et que les parents que nous sommes en général comprennent comme très compliqué. Néanmoins, si on ne cherche pas à comprendre, on ne peut pas avoir l'ombre d'une chance de maîtriser les phénomènes de l'hypersexualisation. Peut-être la proposition qui me paraît la plus importante est la 7e, c'est-à-dire l'information des parents sur les enjeux de l'hypersexualisation. Je ne veux pas anticiper sur les excellents développements qui suivront. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, l'âge moyen pour offrir une tablette connectée à l'Internet, c'est quand même 8 ans. Or, je ne sais pas moi qui vais insister là-dessus, mais la connexion à Internet, qui est d'une simplicité, j'allais dire, biblique, permet d'accéder à tout, au meilleur comme au pire, et il est évident qu'à 8 ans, l'impact de certaines images est plus important. L'ancien procureur de terrain que je fus, qui a vu apparaître dans les cours d'assises françaises le fait que les viols intrafamiliaux sont aujourd'hui le crime le plus souvent jugé dans les cours d'assises françaises, montre l'influence directe, j'insiste pas là-dessus, des images pornographiques et des films pornographiques sur les pratiques sexuelles qui ensuite ont une qualification de viol, puisque la notion de consentement de la femme en général est extrêmement discrète dans l'esprit des gens qui commettent ces crimes. Un autre aspect que votre colloque d'aujourd'hui illustre bien, c'est celui d'accompagner les professionnels de l'enfance autour des enjeux de l'hypersexualisation. Si on ne sait pas ce que c'est, si on n'y réfléchit pas, on ne peut pas agir. La question sur laquelle je voudrais revenir avec vous, c'est que c'est toujours compliqué d'aborder un phénomène de société, d'autant qu'il est, vous l'avez noté, assez peu traité, que c'est un effet de mode. Un effet de mode, ça veut dire qu'il y a des sinusoïdales, qu'un jour on va en parler, un autre jour on va pas en parler. Néanmoins, il y a un vrai marché, c'est le point sur lequel j'insiste, c'est une source de profit, parce que ça fait vendre. Et il suffit d'ailleurs de jeter un regard sur la presse dite pour adolescentes, où on voit, alors, les amateurs de temps libre peuvent regarder les clips sur l'ensemble des chaînes de télévision des vedettes qui plaisent aux plus jeunes d'entre nous et qui sont une illustration assez limpide du fait que l'hypersexualisation n'est pas un phénomène déclinant. La question de la responsabilité familiale, je l'évoque, puisque, bien entendu, en théorie, les parents ont vocation à protéger leurs enfants et notamment à tenter de contrôler les images auxquelles ils sont confrontés, ce qui est un vaste programme. Déjà que les parents se rendent compte de ce que leurs enfants voient est déjà un premier progrès et leur permettre de se poser des questions et peut-être d'aborder la question. J'ai connu il y a très longtemps, comme jeune parent, l'apparition d'un débat très douloureux qui était « il semblerait qu'il y ait des produits stupéfiants dans les écoles et les collèges ». Avant d'en parler, on a laissé bien des années se découler pour donner à ce phénomène une ampleur qu'il a aujourd'hui. On espère que ces phénomènes d'hypersexualisation n'attendront pas 20 ans pour qu'on prenne conscience que dans les milieux proches de l'enfance, eh bien, il y a ce phénomène qui est très prégnant. Alors, une chose qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir ne pas se contenter de déplorer un phénomène dont je vous parlerai des effets, c'est d'abord que les enjeux sont des enjeux publics et pas seulement privés. Le premier enjeu de la lutte contre l'hypersexualisation chez les jeunes, c'est bien sûr d'assurer l'effectivité des droits des enfants. Tout le monde est pour la protection des enfants. C'est un phénomène très récent. Il y a encore des pays où les droits de l'enfant n'existent pas. Les droits, la Convention des droits de l'enfant de l'ONU et les conventions suivantes du Conseil de l'Europe, les chartes pour les droits des enfants, sont toutes très récentes. Elles datent, pour les plus anciennes d'entre elles, des années 1990, et ça reste encore un sujet. Affirmer, comme le fait la Convention des droits de l'enfant, qu'on ne peut pas laisser les enfants exposés à des influences nocives, je cite la Convention, nous renvoie à l'image de l'hypersexualisation, mais toujours est-il que je suis juriste, je suis très amateur de textes, de conventions, de lois, des règlements, mais je sais aussi, comme magistrat, que le plus important, c'est l'effectivité de ces dispositions. Et le fait que régulièrement on mette à jour la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies du Conseil de l'Europe montre que le chemin est encore long pour le faire avancer. Deuxième enjeu, à part faire respecter le droit des enfants, c'est faire respecter un principe très important qui est celui prévu notamment par la Convention de l'ONU depuis 1949, nous-mêmes, et par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est le problème de la défense de la dignité de la personne humaine. L'hypersexualisation est une des principales menaces contre la dignité de la personne humaine. Alors, ce n'est pas qu'un mot, la dignité. La dignité, c'est le fait de ne pas être soumis à différentes formes d'asservissement. Et l'idée d'être transformé en objet, et notamment en objet commercial, en objet sexuel, est l'illustration même de l'atteinte à la dignité. Il y a des arrêts fameux, je vous en cite deux, de la Cour européenne, de l'un qui condamne la Russie et l'autre qui condamne la France, dans deux domaines où des enfants ont été victimes de l'atteinte à la dignité de leur personne. Le premier, c'est l'arrêt Rantsev, je vous le recommande, qui est une jeune Russe qui est partie avec l'accord de ce gouvernement pour devenir danseuse exotique à Chypre, c'est-à-dire prostituée, en fait, et qui, ayant découvert que danseuse exotique était prostituée, a été poussée par une fenêtre et est morte, tombée du sixième étage, et aucune enquête n'avait été menée. Et la Cour européenne a estimé que qu'un pays autorise une jeune, très jeune femme à devenir danseuse exotique dans un pays où c'est une prostitution était une atteinte à la dignité qu'elle aurait dû empêcher. Vous avez ensuite l'arrêt Siliadin, je vous recommande, qui est un arrêt pour lequel la France a été condamnée, où de très jeunes femmes originaires du Burundi avaient été de véritables esclaves domestiques dans une maison à Paris, et on a estimé que la France n'avait pas pris suffisamment de précautions pour garantir qu'un mineur sur notre territoire n'était pas exposé à ce type d'exploitation. Le troisième enjeu, et c'est celui sur lequel je serai un tout petit peu plus long et peut-être le plus inquiétant, le plus sidérant dès lors qu'on commence à regarder, c'est qu'en fait l'hypersexualisation chez les jeunes est en fait un taux d'augmentation radicale du risque d'exploitation des mineurs. Vous allez en entendre parler toute cette matinée, je vous en donnerai un certain nombre d'exemples, puisqu'en fait la banalisation de la sexualité va les rendre extrêmement vulnérables au risque croissant d'exploitation sexuelle. Je parle de risque par prudence de langage, mais c'est une réalité. Puisqu'il faut savoir que pour parler de la prostitution, qui est une des formes d'exploitation sexuelle les plus évidentes, l'âge moyen d'entrée dans la prostitution en France est de 13 ans. En tant que juriste, j'indique qu'un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Ça veut dire qu'il y a donc un certain nombre de mineurs, on est incapable de dire combien, mais sur à peu près une quarantaine de milliers de personnes exploitation, on estime qu'il y a au moins un tiers de ces 40 000 personnes qui sont dans la catégorie 13-18 ans et qui sont donc globalement exposées à l'exploitation sexuelle de la prostitution. On va voir que l'hypersexualisation est sans doute le moteur qui permet de favoriser ce développement. Car dans la prostitution, comme vous savez, il y a celle qui est exploitée, Il y a celui qui exploite, et puis surtout, celui dont on n'aime pas parler, il y a celui qui achète. C'est-à-dire le fait d'acheter les services sexuels de quelqu'un dont la plupart des clients, quand on les rencontre, ils sont difficiles à rencontrer, vous le savez, au mouvement du nid, vous disent « je n'avais pas pensé une seule seconde qu'elle pouvait être mineure ». Bon, la loi d'ailleurs fait, j'ai été le procureur dans une affaire qui avait été assez fameuse en son temps, qui était un directeur de la communication d'un ancien Premier ministre, qui avait été arrêté en flagrant délit en concert sexuel avec une jeune bulgare mineure. Et sa principale défense avait été « mais comment pouvez-vous m'accuser d'avoir recouru au service sexuel d'une mineure alors qu'elle avait vraiment l'air de ne pas être mineure ?» Et j'avais pu convaincre mes collègues à l'époque que peu importait le sentiment qu'avait le client, dès lors que la réalité de la minorité était certaine. Ça n'a pas toujours été aussi facile, puisque dans un procès plus récent qui mettait en cause, disons, d'anciennes gloires du football français et des gloires de la lingerie féminine coquine, le tribunal a adopté le raisonnement inverse en disant que le client avait pu en effet être leurré par l'apparence physique de la mineure prostituée, donc n'a pas condamné. Des éléments fondamentaux de l'effet négatif de l'hypersexualisation, c'est que l'utilisation sans contrôle ni pédagogie des outils de l'Internet les expose aux prédateurs. C'est un sujet sur lequel, malheureusement, à la fois les parents, les citoyens et parfois les juges ne sont pas tout à fait au fait des réalités. D'abord, se mettre à l'esprit que le marché de l'enfant sexualisé est un marché extrêmement prospère. Je l'indiquais, aux États-Unis comme en Angleterre, c'est une affaire par semaine qui est révélée. En France, où vous savez, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté sur les Alpes, la prostitution des mineurs n'existe pas. Comme vous savez, c'est un discours qu'on me tient régulièrement quand je viens rencontrer des autorités. Ça existe quand même, figurez-vous. Et donc, globalement, il faut savoir que les clients, et le mouvement du nid en son temps, et j'espère va continuer à le faire, a fait des études justement pour essayer de comprendre quelle était la motivation des clients. Plus le produit qu'on achète est jeune, et mieux c'est. On sait qu'en France, avoir des relations sexuelles avec une mineure peut coûter cher. Donc on n'a jamais de relations sexuelles avec une mineure. Vous savez que dans la pornographie, il n'y a pas de mineurs non plus, il n'y a que des teens. Donc toutes les personnes qu'on voit ont toutes 18 ans et un jour, globalement, ce qui est extraordinaire. Donc globalement quand même, il faut bien voir que lorsqu'on travaille avec les associations de protection de l'enfance, on voit bien que sur Internet particulièrement, parce qu'il y a un sentiment d'irresponsabilité, parce qu'on sait que le risque de se faire attraper est plus faible que si on avait un imperméable et qu'on allait dans la rue à la sortie des écoles, eh bien, on peut accéder aux services sexuels de mineurs. À titre de procureur, je vous l'indique, parce qu'il n'y a pas de limite, un des procès qui m'a quand même marqué et dont je n'ai pas oublié était un viol sur mineur de 6 mois. Le mineur, d'ailleurs, ne s'en est pas relevé. Mais il faut bien voir que quand vous interrogez les gens qui commettent ces actes-là, il avait payé quand même le monsieur qui avait fait ça, eh bien, il n'avait pas le sentiment de faire du mal à l'enfant, il avait le sentiment que l'enfant l'avait provoqué. C'est quand même des choses qu'il faut entendre. L'hypersexualisation, c'est adoucir ce constat. Quand je le dis comme ça, ça paraît choquant, et ça l'est d'ailleurs. Mais quand on dit, mais après tout, cet enfant n'est pas un enfant, en fait, c'est déjà une femme. Et puis 8 ans, bon, 8 ans, c'est vrai, ça paraît pas à beaucoup, mais tout de même. Donc ici, il faut bien voir que vous êtes confronté, et l'Internet permet d'avoir une certaine visibilité, à des phénomènes de société liés à l'Internet qui favorisent une hypersexualisation qui est extrêmement nocive. La première chose, c'est la diffusion par les adolescents eux-mêmes d'images sexuelles. Ça fait partie des codes sur lesquels on s'entend assez facilement et sur lesquels il y a une grande pédagogie à faire. La deuxième chose, c'est que jamais les jeunes ne connaissent le sens du mot prostitution. Et donc le fait de se livrer moyennant finance à des striptease puis ensuite à des rendez-vous n'est pas considéré comme de la prostitution, mais plutôt comme du fun. Le législateur français vient d'adopter une loi sur ce qu'on appelle en bon français le revenge porn, qui est en fait simplement la suite de ces phénomènes. J'ai une relation sexuelle avec mon ami ou ma mie, on se quitte. Et ça ne m'a pas plu qu'elle m'ait quitté, donc je vais diffuser sur les réseaux sociaux les images qu'on avait prises de relations sexuelles. Je me venge d'elle, ou de lui, mais surtout d'elle, en diffusant des images qu'à l'époque elle avait accepté qu'on prenne, mais qu'elle n'imaginait pas sortir de l'intimité d'une relation de couple. Ce phénomène est aujourd'hui tellement répandu qu'on a fait une loi pour la réprimer spécifiquement. L'utilisation d'Internet, j'insiste pas parce que vous allez avoir une présentation là-dessus, mais le fait que la dimension virtuelle des images et des mots, que la pornographie soit extrêmement présente, dans l'Internet, que les parents et les professeurs se sentent globalement démunis, qu'on ne voit pas, une chose que nous voyons, nous, dans les affaires que nous suivons, c'est en fait l'exercice de maraudes de prédateurs, pédophiles ou pas, qui vont sur Internet repérer les très jeunes filles qui se livrent à des attitudes hypersexualisées et qu'ils vont ensuite rencontrer en les leurrant sur leur âge et sur leurs intentions et qui vont devenir un véritable cœur de cible pour les futures exploitations sexuelles tarifées. Nous avons des exemples multiples. J'ai en tête une très jeune étudiante qui avait été contactée, parce qu'elle, pour gagner un peu d'argent, elle faisait du lap dance dans son appartement, et on lui avait dit, tu as un tel potentiel qu'il faut absolument que tu le développes, méfie-toi, il y a quand même des gens qui sont un peu dangereux, on va s'occuper de ton cas. Et quand elle a voulu arrêter parce qu'elle avait obtenu son diplôme, ses amis, qui sont des proxénètes en sens technique du terme, lui ont dit, tu sais, tu peux pas t'arrêter maintenant, parce que d'abord, tu as beaucoup d'images de toi qui circulent, et nous, on peut les contrôler, et pas toi. Et deuxièmement, maintenant que tu es diplômée, on va pouvoir monter tes tarifs. Ça a été une prise de conscience chez elle que ce qu'elle faisait, qui était pour elle du fun, était en fait un piège redoutable. Il faut savoir que beaucoup de réseaux internationaux passent leur temps à circuler sur Internet pour repérer justement des victimes potentielles. Nous avons une loi que je trouve personnellement excellente, que d'ailleurs le mouvement du Nid et la Fondation SEL ont contribué à faire adopter, qui est la loi contre le système prostitutionnel, qui aborde les questions de l'hypersexualisation sous l'angle pénal, notamment en préconisant des politiques d'information, des politiques d'information à l'éducation de la jeunesse, qui à ce jour et à ma connaissance n'ont pas encore connu un grand développement, puisque nous attendons que les moyens soient mis. Alors je salue d'ailleurs le développement des délégués départementaux et régionaux du droit des femmes, parce que c'est le noyau à partir duquel on peut fédérer les initiatives privées et publiques sur ces phénomènes, mais la tâche est immense, d'autant qu'en face, vous avez potentiellement des millions de sites Internet et des possibilités de développer beaucoup de gains apparents facilement. Je voudrais vous donner des exemples très concrets qui montrent que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit ou une attitude un peu frileuse de ma part de me méfier de l'hypersexualisation des jeunes, contre lequel je ne peux pas faire grand-chose, mais quand même que j'observe. Il se trouve que vous avez aujourd'hui en France un certain nombre de cas de figure. On a à peu près 500 procès par an de proxénétisme, dans lesquels il n'y a pratiquement jamais de proxénétisme sur des prostituées mineures. Jamais, mais pas tout à fait. On a eu, il y a 2 ans, un procès à Bordeaux où c'était la vente de bébés roumains vendus par leur famille, qui étaient offerts à des clients de prostituées parce que c'était quand même plus fun que de se contenter d'aller vers des femmes traditionnelles. L'exemple que vous trouverez sur le site de la Fondation SEL, qui nous a valu d'ailleurs une série de cyberattaques, qui m'a donné à penser que je ne me trompais pas complètement, c'est pendant 2 ans, Daesh, l'État islamique, a publié sur ses sites Twitter. Alors aujourd'hui, ils ont quitté Twitter, comme vous savez, ils sont passés sur un réseau crypté, ce qui les rend beaucoup plus difficile, mais à l'époque, ce n'était pas crypté. On a pu observer qu'ils proposaient à la revente des femmes qu'ils avaient fait venir en Syrie au motif de protéger leur foi musulmane, qui était méprisée en tant que femme et en tant que musulmane dans nos pays. Et donc un certain nombre, on pense environ 2000 jeunes femmes de confession musulmane française, italienne, sont parties en Syrie et ont été offertes aux combattants de Daesh avec des mariages islamiques 4 à 5 par jour. Et puis au bout de quelques mois d'épuisement, eh bien, elles sont revendues en ligne au réseau de prostitution du Moyen-Orient. Et nous avons publié dans notre rapport, notamment, un écran où on voit les premiers prix, femmes de 8 ans pour 4 000 $. Ça veut dire quand on vend, qu'on achète. Et donc on voit bien que ces jeunes femmes n'étaient pas parties pour ça, mais qu'elles pensaient que évoquer les aspects de la sexualité était quelque chose d'intime et lié à leur religion, et en fait, elles se sont retrouvées sur un marché implacable. Un élément qui, personnellement, me trouble pas mal, parce que je suis un juriste, je crois à l'état de droit, c'est cette fameuse explosion des Children Rings aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui génère des... C'est interdit, naturellement, en Angleterre et aux États-Unis, comme en France. Mais le fait que ça se développe sans frein, avec, là encore, des moyens modestes chez les services d'enquête, a développé aux États-Unis, notamment, des mécanismes que je ne connais pas encore en France, mais qui pourraient nous concerner et que je laisse ouvert comme réflexion. Aujourd'hui, notamment l'église mormone, qui est très puissante aux États-Unis, a développé des réseaux d'associations qui font de la veille sur Internet pour repérer les sites où on propose à la vente des enfants. ils ne sont pas bloqués par des règles de procédure pénale, et donc ils se font passer pour des clients et repèrent les endroits où des enfants sont stockés en attendant d'être vendus. Je rappelle, un par semaine aujourd'hui. Et ils organisent des commandos avec d'anciens Marines et des SEALs qui vont, avec l'accord des autorités judiciaires locales, aux États-Unis comme à l'étranger, j'en ai vu notamment en Colombie, vont faire des opérations de commando pour libérer les enfants. Ils annoncent aujourd'hui qu'ils ont libéré environ 500 enfants sur des opérations de cette nature qui ne sont pas du tout gérées par les services publics. Et en disant, les services de police et de justice ne sont pas capables d'agir efficacement, soutenez l'église mormone et nous allons aller chercher les enfants nous-mêmes. Et ils publient les photos des enfants qu'ils ont sauvés. C'est une question qui est terrible, parce qu'on se réjouit de voir des enfants sauvés, mais on est totalement en dehors de l'état de droit. C'est un phénomène qui... On n'a pas encore eu d'affaires de cette nature en France. Ça pourrait arriver demain matin. Je ne sais pas quelle serait la réaction des autorités dans notre pays. Mais c'est un problème lié au fait que la nature est hors du vide. Alors, quelques pistes de réflexion pour éviter que ce phénomène prenne l'ampleur qu'il a pris, notamment aux États-Unis. D'abord, rester ferme sur des principes simples. L'enfant n'est pas une opportunité sexuelle. C'est étonnant de devoir le dire comme ça quand même. Et pourtant, je rappelle, c'est un marché extrêmement prospère. Le corps humain n'est pas un objet de vente. La Fondation Sel est allée la semaine dernière en Inde à un grand colloque sur la prostitution des très jeunes filles, où on voit que la plupart des enfants prostitués sont également victimes de trafic d'organes et d'exploitation, de travail sans limite. On voit bien qu'une fois qu'on est vulnérable, toutes les formes d'exploitation sont possibles. L'hypersexualisation a ceci d'intéressant pour les trafiquants, qu'en fait, ils favorisent l'idée chez les victimes elles-mêmes ou leur avantage, qu'au fond, tout ça n'est pas grave, et que c'est une manière de s'affirmer et de se valoriser, au sens psychologique et financier du terme, que de donner une connotation sexuelle à sa propre personnalité. La question la plus importante est celle de la vigilance. Alors, il ne s'agit pas d'aller traquer les trousses de maquillage dans les salles de bain des enfants, mais de se dire que chaque fois que dans une publication, on voit apparaître des signes clairs auprès d'enfants, parce que 8 à 10 ans, on n'a pas trop de doutes sur le caractère d'enfant, se dire qu'on doit réfléchir, on doit échanger, que ce soit la délégation du droit des femmes, que ce soit les services de protection de la jeunesse, il y est nécessaire de ne pas rester indifférent aux manifestations publiques de ce mécanisme. Vous avez d'ailleurs un certain nombre d'associations qui travaillent spécifiquement sur ce créneau. Je vous cite le cas notamment de l'Association contre la prostitution des enfants, qui vient de publier un état des lieux de la violence et d'exploitation sexuelle des mineurs, qui tient un discours que je soutiens, qu'il y a en France des milliers d'enfants qui sont victimes de la prostitution. Cette prostitution commence dans les collèges, lorsqu'on a vu apparaître un certain nombre de dossiers concrets où on voit de très jeunes garçons qui, moyennant finance, mais c'est modeste, hein, c'est 20-30 euros, demandent à leur petite amie de 12-13 ans de faire une fellation à d'autres camarades dans les toilettes de l'établissement. Quand on commence à parler de ça auprès du milieu éducatif, on a affaire à une réaction assez violente de déni. Il n'y en a pas dans tous les collèges, j'imagine, j'espère en tout cas. Mais il y en a en tout cas, on en a compté régulièrement. Et donc le fait d'en parler est déjà un élément qui permet d'espérer qu'on ne va pas se résigner à ce que ce phénomène se développe. Il s'agit de phénomènes criminels. Ce n'est pas qu'on va envoyer le garçon de 13 ans en prison. Mais si on ne fait rien sur un garçon de 13 ans qui vend les services sexuels d'une petite fille qui, elle, est très contente de rendre service, parce qu'elle est comme ça appréciée au début, hein, parce que d'autres que moi diront les effets de la sexualité trop précoce sur le développement et l'épanouissement des jeunes filles et des jeunes garçons. Deux exemples là encore. Je vous recommande de regarder sur Internet, c'est pas un site pornographique, le site Operation Underground Railroad, qui est en effet celui de l'église mormone, et qui vous dit, vous voulez une manière simple de lutter et de protéger nos enfants, eh ben, venez chez nous. Et il vous explique comment ils peuvent trouver en trois clics des sites où on vend des enfants et on peut aller se les faire livrer à tel endroit. Comme formateur à l'école de la magistrature, où je forme les collègues, notamment à la cybercriminalité, j'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, de leur faire acheter un lance-roquette dans le cadre des activités pédagogiques. Et je me suis promis l'année prochaine de leur faire acheter un bébé à des fins sexuelles. Alors rassurez-vous, avant d'aller se livrer le bébé, mais ça veut dire qu'en 2 clics, je peux aller sur le Darknet et trouver des sites qui, en France, vous proposent des enfants. Comme par hasard, quand on regarde de quels enfants il s'agit, on s'aperçoit qu'on est dans des familles qui sont très déstructurées, où l'accès aux films pornographiques est extrêmement important, et où la littérature, si l'on peut dire, ou en tout cas la musique qui est suivie par, pas par les enfants, mais par l'environnement familial de ces enfants qui sont vendus, est dans un domaine d'hypersexualisation tout à fait effréné. C'est un symptôme pour nous de risque de dérapage extrêmement grave. Alors je ne résiste pas au plaisir, pour ceux qui me connaissent, de citer le dernier prix Nobel de littérature, Bob Dylan, qui a fait une très belle chanson qui s'appelle Dignity, dans laquelle il dit « quand un crime a été commis, la première personne à s'enfuir de la scène de crime, c'est la dignité de la personne ». Je crois que, vous savez, on parle beaucoup du mot « respect ». L'hypersexualisation, c'est un manque de respect en réalité pour le développement à venir de nos enfants. On parle très peu de l'hypersexualisation des garçons. C'est vrai que le marché est plus propice à la vente des petites filles. Ceci dit, il y a aussi un marché. Les chiffres, le mouvement du Nil les connaît bien. Vous avez fait une excellente étude qui s'appelle Procoste il y a quelques mois. Nous travaillons à la Fondation Sel sur l'analyse des phénomènes de prostitution. On constate que globalement, c'est que 90% des personnes prostituées qu'on peut repérer sont des femmes, que 90% sont en fait des femmes d'origine étrangère en situation de vulnérabilité, que le tiers de ces personnes sont en fait des mineurs, qui ne se présentent pas comme des mineurs, et que globalement, la majorité des jeunes femmes qu'on repère dans les circuits de prostitution sont des jeunes femmes qui ont subi des violences sexuelles dans leur première enfance. On voit bien qu'il y a des phénomènes d'interaction sur lesquels je ne me dois d'attirer votre attention. Je suis à votre disposition pour développer les sujets qui pourraient vous paraître intéressants. J'appelle, si besoin était, votre attention sur les sujets qui vont être développés après moi, qui sont extrêmement, j'allais dire, compatibles entre eux. C'est vrai que le cyberharcèlement est devenu un mode social extrêmement commode. Vous avez tous entendu parler des suicides d'adolescents après du cyberharcèlement. Vous connaissez les pratiques qui se développent dans l'entreprise d'obtention des clés ou des codes permettant d'accéder aux réseaux sociaux des candidats à l'embauche. Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui interdit par la loi et pratiqué abondamment. Mais ce phénomène-là, dès lors qu'à l'âge de 8 ans, vous avez votre tablette et que vous êtes inscrit, vous savez que Facebook, a priori, impose un âge pour pouvoir être entré. Et donc, c'est un peu comme dans les films pornographiques, on vous dit, vous pourrez le regarder si vous avez plus de 18 ans. Avez-vous plus de 18 ans? Eh bien, figurez-vous que même des gens qui n'ont pas 18 ans cliquent en disant oui. Et là, c'est exactement pareil pour Facebook, où là, on vous dit, est-ce que vous avez bien plus de 12 ans? Vous répondez, bah oui. Et vous êtes sur quelque chose qui n'est pas diabolique en soi, mais qui est absolument sans contrôle. Et l'hypersexualisation, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas enseigné dans les familles, à ma connaissance. Un exemple, simplement, d'une famille d'enseignants qui avait tenté d'hypersexualiser leurs enfants, mais à leur service eux-mêmes. Et quand on les avait arrêtés pour viol sur mineur, ils avaient expliqué que nous, les magistrats et les avocats, nous étions des gens du passé et que voulaient préparer leurs enfants à une société libérée de demain. C'était il y a 10 ans. Dans leurs 3 enfants, qui avaient entre 3 et 9 ans, il y en avait 2 qui étaient devenus autistes, et l'autre qui avait 9 ans et qui avait été violé par la mère et par le père et qui était habillé comme une prostituée. Et c'était revendiqué comme tel, et c'est un enseignant, il faut le dire, qui nous avait signalé cette affaire en s'étonnant de l'état dans lequel cette petite fille de 9 ans venait en cours. Parce qu'elle allait quand même encore en cours, elle. Bon, c'est pour dire que le pire est à notre porte très facilement, que ne rien regarder, c'est se garantir que ça viendra à bas bruit. Personne n'y revendiquait la beauté de l'hypersexualisation. Sauf que commencer à maquiller les très jeunes enfants, commencer à leur faire prendre des poses, faire du mimétisme par rapport à ce qu'on appelle avec élégance le porno chic, mais je ne veux pas anticiper sur les développements à venir, eh bien, c'est participer au phénomène d'hypersexualisation, et c'est-à-dire participer à la vulnérabilité de nos enfants et au risque majeur d'exploitation, car il faut savoir que les tabous de la protection de l'enfant, c'est bien dans les colloques, c'est bien dans les traités, mais que les effets d'aubaine et d'opportunité font que lorsqu'on peut utiliser des enfants comme des objets sexuels et comme des produits, eh bien, on n'hésite pas tellement. Et c'est bien pourquoi il est important que vous soyez, vous, éclairés sur le fait que les liens entre hypersexualisation, entre prostitution, entre développement et épanouissement de la personnalité sont extrêmement forts aujourd'hui, pas au Béloutchistan oriental, en France, sans doute dans le Loiret. Vous savez, j'ai eu à connaître de l'affaire d'Angers, pas très loin d'ici finalement, où quand même, phénomène qui n'est pas sans précédent et sans postérité, on s'aperçoit un dérapage progressif et rapide vers des pratiques sexuelles dangereuses pour les enfants, en toute bonne conscience de la part de gens qui n'étaient pas au départ des pervers ou des trafiquants internationaux. Donc le mal est toujours possible, il n'est jamais certain, surtout si on y prend garde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire de manière très générale encore. Je suis à votre disposition, bien entendu, tout au long de cette matinée pour préciser un certain nombre de points si vous le souhaitez.
Je me suis trompée dans votre titre tout à l'heure et vos mentions. Première avocat général à la Cour de cassation de Paris, veuillez m'en excuser. Parmi les différents points que j'ai pu noter dans votre intervention, on a pu noter les aspects subjectifs des choses par rapport à la notion de sexualité acceptable dans une société donnée, par rapport au fait d'accepter ou pas certaines choses, et les concours de Miss notamment. Donc on voit une évolution possible des choses, et donc une vigilance à avoir sur ces aspects et cette présentation en fait de l'hypersexualisation dans notre société. Une prise de conscience par rapport à la temporalité, avec le fait qu'on en parle plus ou moins à certaines périodes et à certains moments. Et j'ai noté aussi le fait d'interroger les jeunes sur la notion de dignité et le fait d'être considéré comme un objet sexuel. Interroger les jeunes sur la notion de dignité et les échanges d'actes sexuels. Alors, on va passer à la phase des questions. On a un quart d'heure, 15 minutes pour vous interroger. Monsieur, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent prendre la parole, monsieur ?
Je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense que ça va passer quand même.
Voilà.
Que font les pouvoirs publics par rapport à tout ça ? Parce qu'il est a priori facile de trouver des sites sur Internet, que les services de police vont sur ces sites, essayent d'enquêter, et qu'est-ce qui est fait officiellement ?
Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Simplement, c'est l'efficacité de tout ça est assez difficile à mesurer. Bon, on parle d'hypersexualisation parce qu'il y a eu un rapport fait par un sénateur. Donc, qui a posé la problématique. Et il y a un certain nombre de lois. La plus récente, c'est la loi sur la République numérique qui a posé un certain nombre de garde-fous. Là encore, on peut faire beaucoup de lois. On est d'ailleurs spécialiste en matière de loi. Rien qu'en matière de loi pénale, on en a 16 000 applicables. C'est pour vous dire que si on cherche des textes, on les trouve. Après, la mise en œuvre de ces lois est complexe. Et les pouvoirs publics sont surtout incitatifs. Je pense que c'est la politique de prévention qui doit être de loin la plus dynamique. Moi, je veux bien traiter les problèmes de répression, et c'est nécessaire, mais ça ne peut être que la marge de la mesure de l'échec de la prévention. C'est quand même dommage de se battre pour faire condamner des pédophiles, alors qu'on aimerait faire en sorte que quelqu'un qui est tenté par cela ait des raisons de ne pas céder à cette tentation. On est bien d'accord. Donc les pouvoirs publics ont un peu de mal à accepter que la France soit au même niveau que ses voisins. C'est vrai que, là encore, je l'ai dit, je ne veux pas être trop lourd là-dessus, mais reconnaître comme un outil de politique publique, d'action publique notamment, qu'il y a une prostitution des mineurs et qu'il y a une hypersexualisation qui peut déboucher sur du pénal, c'est encore très difficile. D'ailleurs, le peu de réactions dans les relais publics sur le rapport Joanneau est assez significatif. Alors c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de concours de minimis, Le drapeau de ce mécanisme a paru être efficace, et c'est vrai que ça a été un impact, ça. Néanmoins, nous nous battons tous, d'ailleurs, pour essayer de faire en sorte que le développement des sites Internet qui permettent de développer les pires aspects de l'hypersexualisation soit combattu. Vous savez que la loi contre le système prostitutionnel a fait une petite avancée, notamment en tentant de responsabiliser davantage les fournisseurs d'accès. C'est-à-dire en disant, vous avez une certaine responsabilité sur le contenu de ce que vous vendez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces sites sont sur ce qu'on appelle aléatoirement le deep web, le dark web, le net abyssal, c'est-à-dire sans contrôle juridique. On ne sait pas où ça se passe, Ceci dit, on est capable de fermer des sites, et même s'ils sont ouverts ailleurs, il y a une réaction. Je crois qu'il faut davantage diffuser l'idée que c'est une menace, qu'elle est réelle, mais il y a des choses qui se font. Les dispositifs de la loi sur la République numérique sont en cours, les dispositifs de la loi d'avril 2016 sur la lutte contre le système processionnel sont en cours, on a pris des décrets récemment, notamment pour les habilitations d'associations dans les régions pour être les relais des services publics. S'il y a un domaine où le partenariat privé-public est important, c'est bien celui-là. On est encore loin de se gargariser sur l'efficacité de notre système. Si vous allez au Québec, c'est un très beau pays au demeurant, vous verrez qu'ils sont allés beaucoup plus loin. Il est vrai qu'ils sont confrontés à des choses extrêmement violentes. Pour les amateurs d'horreur, quand on est procureur, vous savez, une des affaires qui a fait bouger la loi au Québec, enfin au Québec, au Canada, c'est l'affaire Picton. J'insiste pas là-dessus, je vous la recommande, vous la regardez sur Internet. Picton, c'est un éleveur de porcs et client de prostituées qui a joint les deux activités. Revendant de la viande de prostituée, c'est la réalité. Ça a tellement choqué l'opinion publique, parce que pendant 20 ans, il l'a fait, parce que les prostituées étaient des jeunes femmes inuites qui n'intéressaient personne. Ça a obligé la loi à changer et les comportements à évoluer. Alors, on n'attend pas de tomber sur des horreurs comme ça chez nous, mais globalement, pour répondre de manière très générale à votre question, oui, les pouvoirs publics font des choses. Comme toujours, c'est la continuité dans l'effort qu'il faut surveiller. Bon, on a des échéances électorales intéressantes, semble-t-il, qui s'approchent. Nous allons, comme le mouvement du Nid, d'ailleurs, interroger les candidats aux élections sur ce qu'ils envisagent de faire sur ces matières. On suivra les réponses et on suivra les lois qui seront votées après les futures échéances électorales.
Il y a des services de police spécialisés, par exemple, sur ces thèmes-là ?
Ne me peinez pas, monsieur. Oui, il y en a. Ils sont excellents. En 10 ans, leurs effectifs ont fondu de 40%. Ça coûte cher, vous avez un enquêteur spécialisé. Ça coûte cher, ça prend du temps. La peur de la délinquance est une réalité, le sentiment d'insécurité en est une autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'excellents services totalement sous-dimensionnés.
Sur ces sujets, différents services sont concernés, services de l'État, collectivités. C'est aussi le but de la journée de voir qui fait quoi, comment se coordonner sur ces thématiques pour mieux travailler pour la suite et après cette journée aussi.
Pour faire simple, en matière de prévention, c'est le préfet qui est l'autorité et les services liés à la préfecture qui doit récupérer, analyser et réagir sur les éléments qui justifient des réactions en termes de prévention. En matière de délinquance, lorsqu'elle paraît constituée, c'est le procureur de la République qui est l'autorité vers laquelle et les corps constitués et les individus doivent aller. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est ça le schéma. Et pratiquement, vous avez dans tous les départements et toutes les régions des protocoles, des chartes qui se concluent, notamment avec l'éducation nationale, avec les associations familiales qui commencent à bouger là-dessus.
Bonjour. Je suis infirmière au collège. On demande souvent des formations et de la prévention. On demande beaucoup. Cette année, 50% de toute notre formation a été sucrée par l'ARS. Et je me demande comment faire, parce que comme toute intervention préventive ont un coût. Est-ce que des formations comme le NID ou autre pourraient intervenir? Parce qu'on a des intervenants comme la PLEAT, que personnellement je trouve un petit peu soft sur le danger d'Internet. Et moi, ils m'ont toujours quelque chose, et j'aurais voulu un peu plus que ce qu'on entend.
Oui, alors nous, très modestement, enfin, tout le monde essaie de faire quelque chose qui soit pas soft, parce que la réalité est tout sauf soft. Hein. J'insiste pas, mais on pourrait dire des choses assez fortes là-dessus. Mais la réalité, elle est forte, tous les gens qui travaillent sur le champ le savent. Pour vous donner un exemple, nous organisons tous les ans des prix avec des écoles. Cette année, on va en plus faire des prix avec le Centre National d'Obstétrique et avec les écoles de sages-femmes, en intégrant des consultations liées aux effets de l'exploitation sexuelle dans les consultations liées à ces spécialités. Puisqu'on a constaté, dans les services d'urgence notamment, l'augmentation des situations où des désordres physiologiques révélaient des exploitations sexuelles qui avaient été complètement sous-estimées. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'hypersexualisation, on parle de choses... Il y a un mot qui est très utilisé aux États-Unis, c'est « glamour ». Tant que vous parlez de glamour, pourquoi aller se mêler de ces affaires-là? Après tout, c'est le plaisir. Il faut bien voir quand même que moi, je vous parle de crime, parce que la conséquence de ça, elle est rapidement là. Les atteintes à la santé des personnes, c'est une réalité. Hein, l'OMS avait fait une étude il y a quelques années sur la prostitution aux États-Unis sur 30 ans. Et ils avaient établi que l'espérance de vie moyenne d'une personne vivant habituellement dans la prostitution était de 33 ans. Alors je sais bien qu'actuellement l'espérance de vie recule, pour des motifs autres, bien entendu, mais quand même. Donc on voit bien que, enfin tous les spécialistes vous diront quels sont les effets psychologiques et physiologiques. Un exemple, juste pour vous dire qu'on peut, on peut pas faire des campagnes soft là-dessus. On discutait avec l'ordre des chirurgiens dentistes. Et ils nous avaient expliqué, ils font des consultations gratuites dans les hôpitaux, parfois. Ils nous ont dit, nous, on s'est rendu compte avec surprise que lorsqu'on avait des consultations de jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui n'avaient plus d'émail sur les dents, on était sûr qu'elles étaient prostituées. Et alors ils sont allés regarder de plus près, si j'ose dire. Jamais ces jeunes femmes se présentent comme des prostituées, bien entendu. En fait, c'est des jeunes femmes qui vomissent 20 fois par jour. Et le suc gastrique détruit leurs dents. Et la première chose qu'elles nous demandent dans les associations, c'est qu'on leur refasse les dents parce que, pour l'estime de soi, c'est catastrophique. Vous voyez, ce genre de choses très concrètes et pénibles, c'est une des conséquences de ce phénomène qui, au départ, est présenté comme plutôt amusant et titillant. En anglais, d'ailleurs, vous savez, proxénète, ça se dit pimp. C'est un mot français qui est pimpant. C'est quelqu'un qui vous procure du plaisir. C'est sympa, quand même.
Alors, je me permets de rebondir, mais ce que je me demandais, c'est au vu de l'hypersexualisation chez les jeunes et le fait que ça se développe de plus en plus sur certains réseaux sociaux, mais c'est des réseaux sociaux qui sont encore invisibles, j'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup de Facebook ou de Twitter, mais les jeunes, ils savent presque tout ça aujourd'hui, c'est Snapchat et Instagram et Tumblr, et c'est bien plus violent que ce qu'on pouvait voir sur Facebook, parce qu'il n'y a aucune réglementation sur ces réseaux sociaux. C'est là en termes d'image. Et enfin, personnellement, on assiste à des choses très violentes parce qu'il y a un besoin de validation chez un ado pour son image. Et du coup, ils confondent souvent validation esthétique. Et vous avez employé le mot glamour, je pense que c'est très vrai. Pour la plupart des jeunes, c'est une notion de glamour. Ils s'en sont compte, ils mettent en image en danger. Pensez-vous que comment on peut lutter concrètement, même dans la prévention, contre ça?
Pour l'instant, c'est presque plus facile de lutter sur la prévention que sur la répression, puisque le territoire de l'Internet est un territoire, vous le savez, très complexe. Mais dès lors que l'Internet, quelle que soit sa forme, et notamment les réseaux sociaux qui se développent, révèle ce qui peut être une infraction pénale, on peut rentrer dans le sujet. Mais il faut d'abord pas avoir peur d'en parler. On avait peur de parler de la drogue il y a 40 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite dans ce domaine-là. Et on a fait des études sur les effets catastrophiques que ça présente. Mais là, on est dans le même sujet. Quel que soit le vecteur, dès lors qu'on banalise, c'est le mot que je trouve le plus important personnellement là-dedans, qu'on banalise le corps humain, la sexualité, eh bien, comme disait un humoriste du 19e siècle, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Et comme c'est personne qui vous les montre, ces bornes, et qui a un effet de surenchère, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de faire ce genre de... Il y a eu des tas de rapports qui ont été faits déjà sur la question. Sauf que la technologie va plus vite, et vous savez que la culture va moins vite que la technologie. Donc là, on a un problème, non pas d'arrêt sur image, mais de capacité à se mettre autour d'un certain nombre de tables pour dire voilà comment ça se passe en ce moment. Quand je vous parle des bébés roumains qu'on vendait sur Internet, vous savez, c'était pas clandestin. Hein. Il a fallu que quelqu'un porte plainte, on ne sait pas pourquoi, pour se rendre compte que ça se développait. Et tant qu'il n'y a pas de résistance à ces phénomènes, les phénomènes se développent. Hein? Donc, mais là, vous avez... Le territoire de l'Internet est aujourd'hui sur lequel... C'est celui sur lequel se jouent les enjeux les plus importants. Or, nos modes d'intervention aux uns et aux autres, ils sont pré-Internet encore, en grande partie. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses à inventer.
On a une autre question.
Bonjour, je suis Sarah du Planning Familial. Donc, on est une association et on intervient pas mal dans le milieu scolaire, dans les collèges. Moi, je n'aurais pas un résultat aussi dramatique que vous pour être au contact de pas mal de collégiens. Je pense que j'ai l'impression que c'est un phénomène nouveau, grandissant. Parler de sexualité, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément, informer, c'est pas forcément négatif. Et c'est vrai que il faut savoir quand même que dans la loi, logiquement, il y a 3 ans d'intervention, il y a 3 heures d'éducation à la vie affective et sexuelle du CP jusqu'à terminale, et que clairement, c'est pas fait, c'est pas, il n'y a pas forcément de choses mises en place pour que ça se fasse. Et que dans votre sens, il y a quand même des gros mouvements aussi très conservateurs qui interrogent les associations qui interviennent pour faire de l'éducation à la sexualité. Donc je trouve qu'il y a un énorme paradoxe entre faire un constat d'hypersexualisation et en même temps d'être freiné parfois à intervenir pour en parler. Nous, très souvent, on parle du porno, c'est quelque chose qui arrive, sauf qu'on remarque par exemple que les jeunes garçons vont regarder du porno pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne leur parle pas de sexualité. Il n'y a pas de lieu où ils peuvent échanger, donc on est dans une recherche d'informations et de connaissances. Donc juste, moi c'est juste une petite intervention, mais je pense qu'un des enjeux aussi qui est très important, c'est l'éducation à la sexualité. Et juste, il y a un distinguo entre parler du corps et parler de la sexualité. On ne dit pas à des jeunes que, dès la primaire, on devrait dire à des jeunes enfants par exemple que leur corps c'est leur corps et que personne n'a à toucher à leur corps. Mais on voit bien que dès qu'on commence à échanger avec l'éducation nationale, par exemple, même avec des parents, juste parler du corps et parler de la sexualité, c'est dangereux. Donc je trouve qu'il y a un très gros paradoxe entre des associations comme la Lutte pour tous, par exemple, qui dénoncent le clanique et qui dénoncent d'autres associations qui interviennent. Je trouve vraiment qu'il y a ce paradoxe-là qui est... ça nous fait peur, mais en même temps, on ne veut pas mettre en place des choses. Voilà, c'était juste une réaction.
Bien, je ne veux pas rallonger. Je pense que ce n'est pas un paradoxe. Je pense qu'il y a des liens de cause à effet qui sont certainement liés. J'ai beaucoup insisté sur le fait que tant qu'il n'y a pas de prévention, on est exposé aux systèmes dramatiques qui sont faciles à décrire. On peut se contenter de les dénier, mais ils sont là. Ils peuvent se développer et que tant qu'il n'y a pas de prévention, il n'y a aucune chance qu'on ait une capacité à réagir utilement à ces phénomènes.
Et merci d'avoir rappelé effectivement que plusieurs associations, donc l'aide familiale, le Grand Julie, le CIPFIA, le lieu d'accueil et d'écoute interviennent sur ces sujets, liés à la vie affective et sexuelle, ou pour d'autres structures, les violences, notamment les stéréotypes aussi. Je vous propose d'enchaîner sur la deuxième séquence de la matinée.